You are listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. Welcome to Dragon Root, feminist-powered radio brought to you by CKUT and the 2110 Center for Gender Advocacy. We have a longer version of the show today. The Dragon Root symbolizes the diversity of every body and mind on the gender spectrum. Tune in every Tuesday morning from 8:30 to 9 on 90.3 FM or ckut.ca/listen. You can also pick and choose from our archives at center2110.org. We bring you reports from the Dragon Root Radio Project on gendered violence, live tunes from feminist, queer, trans, and gender-aware musical guests, and interviews about a wide array of social justice issues examined through a gender perspective lens. This is the Dragon Root Safer Space episode. We explore ways to reclaim and feel safe in different spaces. We speak with the coordinator of a feminist self-defense program and how it helps create mental and physical safe spaces. Then, we speak with Women and Cities International, an organization working with youth in Montreal to recognize factors which make them feel unsafe and to reclaim these public spaces. We also speak with an artist who works with those who have faced violence about feeling emotionally and mentally safe through art. Let's talk about spaces of dialogue created by teenage girls to talk about issues of gendered violence, as well as the song that we just heard, Oblivion by Grimes. Rookie Magazine was created by teenage fashion blogger Tavi Gevinson in 2011 and is run by a staff of teenage girls. Tavi Gevinson spoke about the reasoning behind this magazine on TEDx.teen recently. And this magazine recently posted on their Tumblr page a short post about ex-CKUT intern Claire Boucher, also known as Grimes. This post concerned Boucher's well-known song Oblivion, which we just heard, and a quote from Grimes about the inspiration behind the song. This is what she had to say. "The song is about being violently assaulted, and it made me crazy for a few years. I got really paranoid walking around at night and started feeling really unsafe. It's more about empowering myself physically amongst the masculine power and the hate of feeling powerless, making light of masculine physical power, making it jovial and non-threatening. I took a typically violent cultural situation and made it pop and happy." There are a few interesting things about this, especially for those who have heard the song before. The first is that the video for the song depicts Grimes in many masculine spaces, performing, which speaks to empowerment and subversion. The second is that through sharing Grimes' quote, young girls at Rookie Magazine open up dialogue and create spaces for this kind of these kinds of discussions. Last but not least is the relevance of the internet and magazines such as Rookie Magazine, which open up spaces for those ideas and issues of concern for young women and the possibility of the creation of spaces for healing and advocacy.
Merci Pamela pour cette présentation. conversation. C'est vrai que c'est vraiment cool de savoir qu'il y a des jeunes qui parlent et écrivent en leur nom sur ces sujets-là. Et je vous conseille vraiment d'aller voir le clip de Grimes, il est super intéressant, vraiment pertinent. L'adolescence est vraiment la charnière auquel les filles peuvent se sentir plus vulnérables, moins armées pour s'approprier les espaces, notamment en ville. On ne nous a pas toujours ni appris ni aidé à se sentir chez nous partout, légitimes et autorisées, et encore moins dans les espaces publics, souvent perçus comme des lieux d'agression et de menace. Mais depuis une dizaine d'années, les mouvements féministes sont quand même parvenus à imposer une réflexion sur la thématique femmes et villes, en matière d'accessibilité aux biens et services, mais aussi en matière de sécurité, et ce dans la plupart des conseils municipaux des grandes villes du monde. Les féministes canadiennes et québécoises ont été pas mal pionnières dans ce domaine depuis les années 70 et 80, où elles organisaient des manifestations non mixtes de nuit notamment. Au cours des années 90, elles ont développé beaucoup d'outils d'empowerment des femmes pour lutter contre la peur, mais aussi pour permettre d'identifier les besoins des femmes dans des villes construites et organisées en fonction de politiques urbanistiques tout à fait aveugles au genre et aux inégalités en général d'ailleurs, comme toujours selon le modèle majoritaire de l'homme blanc de classe aisée. Actuellement, l'organisation Femmes et Villes internationale, Women in Cities International, créée en 2002 à Montréal, a repris le flambeau de cette lutte et continue de travailler avec des femmes de tout âge et de toutes origines sur la question de l'inclusion des femmes en ville.
En rentrant de l'école, je passe toujours devant le parc. Je ne vais jamais au parc. Je n'aime pas être là-bas. Chaque fois que les filles vont au parc, les garçons arrêtent tout ce qu'ils sont en train de faire et ils se mettent à nous regarder. Ils nous font plein de commentaires. Ils se mettent à rire. Ils cherchent à nous provoquer. C'est comme s'ils nous disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Rihanna a 15 ans. Elle vit à Delhi, en Inde, l'une des plus grandes villes du monde. Elle a participé au programme « Because I'm a Girl », mis en place dans plusieurs villes du monde, comme le Caire ou Lima, par l'UNESCO et Femmes et Villes internationales. Dans ce petit film, produit lors de la campagne, elle refait face à la caméra les trajets quotidiens de chez elle à l'école, en passant par le parc, le marché, les latrines publiques, et décrit toutes les agressions verbales ou physiques, tous les sentiments de peur et d'insécurité auxquels elle peut avoir à faire face au cours d'une journée. Depuis le premier séminaire international sur la sécurité des femmes, tenu à Montréal en 2002, plusieurs conférences internationales ont eu lieu, permettant d'avancer dans la définition de cadres d'action précis, afin de faire du droit à la ville pour tous et pour toutes une réalité. Plusieurs programmes se concentrent sur les adolescentes, car d'ici 2030, ce sont plus d'un et demi milliard de filles qui vivront dans des zones urbaines, soit une population qui ne peut plus ne pas être prise en compte. À Montréal aujourd'hui, des projets similaires sont mis en œuvre, comme le projet « Bien dans ma ville », dont nous parlent aujourd'hui Simone Lucas et Emmanuel Paris-Cohen, de Femmes et Villes internationales.
Au tout début du projet, je ne savais pas tellement comment aborder la question de la sécurité dans l'espace public parce que Montréal, a priori, on a une réputation d'être une ville super sécuritaire, etc., comparée à d'autres endroits dans le monde. Et je me suis dit qu'aborder cette question avec des jeunes filles ou des jeunes, ce serait moyennement pertinent à leurs yeux. Mais finalement, ça m'a permis, à travers leurs yeux, redécouvrir la ville, me rappeler comment c'était de négocier sa présence dans l'espace public pour la première fois de manière qui n'est pas encadrée et qu'on découvre certaines choses. Et par exemple, pour une adolescente de 15 ans qui se fait siffler ou qui se fait interpeller comme ça de manière désagréable dans la rue, ça peut être intimidant, gênant, insécurisant, alors qu'aujourd'hui, pour moi en tout cas, je vais me défendre, je vis ça plus comme un facteur irritant qu'insécurisant.
Alors finalement, on a travaillé avec quatre groupes, qui étaient vraiment différents dans ces termes-là de socio-économique. Projet qui pourrait représenter la diversité des filles à Montréal, alors que ça soit un projet qui peut engager comme des filles de différents backgrounds à Montréal, parce qu'on a tellement une diversité comme de classe sociale, ethnique, culturelle, des différentes histoires que les filles peuvent avoir, puis des différents contextes. Et ça va vraiment changer leur vécu de la ville. Alors, dès le début, on aurait aimé comme rejoindre ces filles-là, puis pouvoir parler avec elles, puis savoir c'est quoi qu'elles veulent faire, puis vraiment faire que c'est elles qui mènent ce projet-là. Les concepts, au début, peuvent être très éloignés, comme approprier l'espace, le leadership. C'est un peu conceptuel au début pour les filles, et ça a été comme une difficulté de les entraîner dans le projet, mais un facteur vraiment pratique, si tu essaies d'engager les jeunes, c'est de le faire dans leurs écoles, puis qu'eux, ils vont recevoir comme des crédits ou qu'il y a un prof supportif qui peut faire le lien entre toi puis les jeunes. C'est difficile d'accrocher les jeunes avant qu'ils ont un intérêt dans le féminisme ou le empowerment des filles. S'ils connaissent pas ça, c'est comment ils vont être intéressés. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est on est allé dans les écoles, on a fait une petite présentation, on a discuté, tu sais, juste commencer les discussions, c'est quoi... Est-ce que tu te sens en sécurité dans ton quartier? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas?
Il y avait quand même trois activités qui formaient, enfin, finalement, la pierre angulaire du départ de ces programmes. C'était l'activité de marche exploratoire, basée sur la méthodologie. Le nom en entier, c'est Marche exploratoire pour la sécurité des femmes. C'est un outil qui a été développé par l'organisme METRAC à Toronto et dont le guide a été développé plus tard par le volet Femmes et Villes de la ville de Montréal. Femmes et Villes International se sert beaucoup de cet outil-là dans tous ses projets, à la fois comme outil de recherche parce que ça permet d'obtenir des renseignements sur le vécu en matière de sécurité et d'inclusion des femmes n'importe où, finalement. Et c'est aussi un outil de empowerment pour les participantes qui peuvent s'en servir pour s'exprimer, pour agir, pour identifier et faire du lobbying, finalement, avec leurs idées. Et donc ça, on a utilisé ça avec les jeunes. Ça a été beaucoup adapté du début à la fin du projet parce que c'est sûr que présenté comme ça, bon, on va aller faire une marche, voici une liste de facteurs liés à l'espace, donc l'achalandage, la sécurité, qui est là, quel est l'entretien, est-ce qu'il y a des graffitis, c'est très technique à la base. Et bon, il y a aussi la prise de photos, ce qui était plus amusant pour les jeunes. Donc, par la suite, on a plus capitalisé sur cet aspect-là. Et on a rendu ça plus ludique, finalement. Toujours en gardant cet aspect vraiment important de capturer l'information sur le vécu des jeunes dans leur communauté et de les faire, finalement, prendre conscience et réfléchir à ces aspects-là et comment l'espace urbain affecte leur vie quotidienne. Ensuite, on a fait aussi des exercices de cartographie subjective par lesquels on demandait aux participantes de dessiner leur quartier avec leur trajet quotidien, les endroits qu'elles aiment, qu'elles n'aiment pas, où est-ce qu'elles ont eu des expériences marquantes, où est-ce qu'elles n'ont pas le droit d'aller, pourquoi, quelles sont les émotions. Donc ça donnait lieu à des dessins qui souvent nous aidait à identifier le lieu où faire la marche par la suite, en identifiant les endroits qui revenaient le plus souvent comme étant pas sécuritaires. Donc ça aussi, cette activité-là, c'était vraiment important parce qu'il y avait le côté créatif aussi qu'on cherchait beaucoup et sur lequel on a bâti pour ensuite arriver à un projet plus médiatique. Il y a aussi des activités pour les encourager à devenir des leaders dans leur communauté. Ça c'était commun à tous les groupes. Souvent dans une approche plus, j'ai envie de dire, paternaliste de la sécurité, de la prévention de crimes, on va dire aux femmes et aux filles que statistiquement, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'êtes pas susceptible d'être victime d'attaques, etc. Regardez, c'est plus les hommes et machin. Donc l'idée, c'est pas vraiment de... Oui, c'est de déconstruire certains stéréotypes et certaines perceptions, mais sans non plus leur dire qu'il n'y a pas de raison de sentir pas en sécurité, parce que c'est important pour nous, je pense, de venir valider ce sentiment-là et plus d'entamer une réflexion de pourquoi est-ce qu'on a peur, plutôt que de dire « tu n'as pas besoin d'avoir peur à cause de ça ». Il y avait un des groupes qui est plus basé au centre-ville de Montréal qui avait identifié la présence d'itinérants comme facteur insécurisant pour elles dans leurs déplacements, etc. Donc, on a eu l'idée d'organiser un déjeuner causerie en partenariat avec un organisme, la Maison Benoît Labre, donc qui accueille des itinérants qui offrent des services de base, etc. Et pendant ces déjeuners causeries, ils invitent des anciens hommes ou femmes qui ont vécu l'itinérance, qui ont utilisé leurs services, à venir servir à manger à des groupes et à discuter sur leur vécu. Ça leur a donné l'occasion de poser des questions à ces hommes, à savoir quel était leur vécu dans la ville de Montréal, leur sentiment d'inclusion. Ils ont pu partager beaucoup sur justement le fait que les hommes itinérants sont vraiment victimes, enfin les hommes, les femmes, tout, n'importe quelle personne vivant dans l'itinérance pourrait être victime de sentiments d'insécurité, de harcèlement policier, de profilage, de 1 milliard de facteurs de non-inclusion ou d'insécurité dans la ville, sans pour autant invalider leur sentiment de crainte. C'est quand même venu amorcer une réflexion pour voir que tout n'est pas noir et blanc.
Alors aujourd'hui, on va parler de l'itinérance. Donc, les itinérants sont des gens comme vous et moi et ils ont besoin de beaucoup d'amour.
On pourrait arrêter de faire des stéréotypes.
Par exemple, juste leur dire bonjour de temps en temps.
On avait déduit avec les filles que l'achalandage et la présence de services, la présence de vélos, la présence de commerce, tout ça, c'était des facteurs sécurisants, mais qu'elles n'avaient pas vraiment finalement accès non plus à ces services à cause de leur coût qui est très cher. Elles ont dit, bon, les Bixi, c'est super, mais on ne peut pas les utiliser. De un, parce que ça prend une carte de crédit et qu'on n'a pas 18 ans. Et de deux, c'est juste pas dans nos moyens, même si on y avait accès.
L'impact du projet sur, par exemple, les filles qui vivent à Ville-Saint-Laurent, avec elles, on a vraiment vu un changement dans la façon dont elles parlaient du projet et d'eux-mêmes. Comme souvent, même si elles vivaient beaucoup de choses difficiles dans leur vie, elles venaient dans le projet et disaient « Je me sens tellement bien depuis que je fais ce projet, j'ai vraiment beaucoup de confiance, je suis capable de m'exprimer ». J'adore être impliquée, je veux faire plus de projets. Alors ça, c'était super beau à voir. Et aussi, les voir vraiment prendre possession du projet. On a fait une manifestation dans leur quartier, puis elles ont fait un magazine et on a distribué ça publiquement dans leur quartier. Alors c'était vraiment une bonne expérience où elles ont parlé à leurs voisins, puis elles ont dit comme arrêter la violence aux femmes, puis arrêter la violence faite aux jeunes. Dans les jeunes avec qui on a travaillé dans le projet, il y en avait certains qui demandaient qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi le changement qu'on peut faire après avoir fait ce projet. Puis je pense que c'est dans un projet qui est seulement financé pour 2 ans, et après, il n'y a pas vraiment une source de revenus pour continuer. C'est vraiment difficile de comme faire des changements tangibles dans l'espace public. C'est sûr qu'avec Femmes et Villes internationales, c'est ça le but des marches exploratoires, puis c'était le but de d'autres projets qu'on a fait avec d'autres groupes de femmes au Canada. Tandis qu'avec ce projet-là, c'était plus axé sur l'empowerment, puis avoir comme les produits médiatiques qu'on peut faire tout de suite, puis qu'on peut voir tout de suite comme impact. Mais je pense que le projet a montré que les jeunes devraient être consultés quand on pense comme au changement qu'on veut faire dans l'espace public, puis à l'accessibilité.
On se sent en sécurité quand... Trouver de l'aide facilement!
Quand un endroit est éclairé!
Quand un endroit est achalandé!
Quand c'est propre!
Quand c'est coloré!
Quand c'est vivant!
vient d'entendre Put You in a Box du groupe montréalais Rough Talons. Vous écoutez Dragon Roots Radio sur CKUT 90.3 FM, une émission consacrée à la notion d'espace safe, d'espace secure. La prochaine entrevue est au sujet du programme Action, un cours d'autodéfense pour toutes les femmes. Coordonnatrice du programme Action au Centre de prévention des agressions de Montréal. Alors, Sophia, est-ce que tu peux un peu nous présenter le programme Action?
Oui, alors nous, le Centre de prévention des agressions de Montréal, ça fait presque 30 ans qu'on existe. Et il y en a deux programmes, le programme Espace et le programme Action. Moi, je suis la coordonnatrice, comme tu as dit, de celui d'Action. Et qu'est-ce qu'on fait là? On fait des cours d'autodéfense pour toutes les femmes et les adolescentes de 12 à 17 ans.
Merci. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous faites pour créer un espace sécuritaire pour les femmes dans le cadre de vos cours?
Oui, on est déjà dans tout ce qu'on fait, avec notre approche féministe et aussi de empowerment, de redonner le pouvoir aux femmes pour qu'elles puissent décider avec de l'information de ce qu'elles veulent faire. Et on est en cercle pour nous voir toute la face, pour être toutes ensemble. Et on discute sur des sujets, de c'est quoi les agressions, pourquoi ça nous arrive à nous les femmes. Et au cas où on veut les arrêter ou les prévenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on voit différentes stratégies qu'on peut utiliser au niveau verbal et physique pour assurer notre sécurité, puis être libre pour faire ce que nous, on veut, on choisit de faire, nous, pas ce que quelqu'un nous impose de faire.
Merci. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi, selon toi, les espaces publics sont moins sécuritaires pour les femmes?
Oui, ben nous, on adresse ça pendant le cours et on voit que ça, c'est un mythe. Uh-huh. La statistique nous montre que les femmes se font tant le jour et le soir et dans des endroits connus et inconnus. Elles vivent des agressions. Et la plupart de ces inconnus, 80%, ce sont des agresseurs que la personne connaît. Fait que déjà, nous, on voit que pas nécessairement les espaces publics sont plus dangereux que les espaces privés. Peut-être que ça se voit plus parce qu'il y en a d'autres personnes. Mm-hmm. Ou aussi, même nous, on se sent plus à l'aise à en parler d'une agression qu'on a commise par quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue. Tandis que si c'est une agression que mon chum me fait ou quelqu'un de ma communauté me fait, dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille, peut-être nous, on se sent plus mal à l'aise à ventiler qu'on vit une situation comme ça. Fait qu'il y a pour ça peut-être moins de... disons, connaissance, si tu veux, que ça existe aussi dans les espaces privés.
Merci. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter par rapport à, au programme Action ou à ce que vous faites au Centre de prévention des agressions?
Oui, dans notre programme, pour nous, c'est important de pouvoir offrir le service de cours à toutes les femmes. C'est-à-dire, pour nous, peu importe si les femmes décident de s'habiller d'une certaine manière à cause de sa religion ou si elles décident de faire un travail que, pour des autres personnes, peut-être c'est un travail vu comme moins reconnu. On parle de Jolda ici, en concret, de travail du sexe. On parle de femmes musulmanes, des femmes qu'elles se sont opérées pour devenir des femmes. Tout ça, pour nous, dès qu'une personne elle se sent comme une femme, alors elle vit les agressions comme une femme. Et ça, ça va... peut-être nuire ou non son ce qu'elle vit dans la société. Parce que nous, on prend en considération le fait qu'en tant que femme, dans cette société patriarcale, on a un peu moins de marge de bouger puis d'être libre. Et d'une autre part, on voit aussi que les femmes, il y en a beaucoup de mythes là-dessus dans les agressions. C'est pour ça que nos cours, là, ont une durée de 14 heures où on parle avec les femmes. Mais c'est quoi les agressions? Une agression, c'est quand quelqu'un veut m'imposer, faire quelque chose que je ne veux pas. Et pour le faire, ben, il va utiliser un certain type d'agression, soit les coups, soit des insultes, soit l'agression psychologique, soit aussi l'argent, à jouer, à me donner ou pas de l'argent. Fait que, à travers ces manières de comment la personne peut m'agresser, je peux décider avec des outils que je peux en avoir pendant les cours ou aussi que moi je peux en avoir pendant mon vécu, de qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux. Si je me sens pas à l'aise dans un endroit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me harcèle sexuellement ou psychologiquement ou aussi me rabaisse, me maltraite? Et dans ce sens-là, nous, on essaie de voir des différents cas. Et aussi, bon, pour les filles, les adolescentes, nos cours sont en train de s'actualiser et de changer tout le temps. Et un cas concret pour les adolescentes, par exemple, on parle de l'intimidation, le bullying. On parle aussi de qu'est-ce qui se passe avec tout le cyber-internet, tout l'internet, le Facebook, tout ça. Quand nous, on pose des photos qu'elles peuvent peut-être utiliser pour nous faire du chantage après, oui, ou que peut-être nous, on perd le contrôle quand l'image est déjà dans l'air, dans l'internet. Et des personnes peuvent l'utiliser d'une autre manière qu'on ne veut pas. Fait qu'on le parle avec les filles. On parle que ça existe, le pourquoi ça peut exister et comment on peut être plus en sécurité pour nous sentir bien.
Ah ben, merci beaucoup. C'était Sophia Rodriguez, coordonnatrice du programme Action au Centre de prévention des agressions de Montréal.
Vous écoutez toujours Dragon Roll Radio sur CKUT 90.3 FM. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée à la notion d'espace safe, d'espace secure. Quand on parle d'espace et de sentiment de sécurité, on voit bien à travers ces différentes interviews qu'on peut faire référence à des expériences et à des vécus bien différents les uns des autres. Mais une chose est sûre, les agressions, quelle que soit leur forme, leur degré de violence ou leurs conséquences pour notre intégrité physique et morale, qu'elles aient lieu dans des espaces publics ou privés, sont avant tout des invasions, des colonisations de notre espace vital. Une autre stratégie afin de se réapproprier cet espace, afin de mener une réelle décolonisation de l'espace envahi et confisqué lors de l'agression, peut être l'art et la création. On a rencontré l'art thérapeute Esther Calaba, qui nous rappelle la force que peut avoir la peinture, le collage ou toute autre forme d'expression artistique à la suite d'une expérience traumatique.
Is kind of the basis of any therapy work, and before you can actually do therapy or art, you have to kind of establish that sense of safety for people. There's a lovely activity that I like to do with people. If I do a group, it's usually kind of at the beginning, and it's a mandala. And a mandala is basically a circular form. And within that, I ask people to draw where maybe a certain time in their life or a place or maybe a part of their body, something that bring safety to them. And so this is kind of a safe space, and this is a place that they can kind of come back to in therapy or even when I do kind of one-off workshops. This idea of a safe space they can take with them in their life. And so if things are going not so well, they can come back to this sense of safety. And where is my sense of safety? And, you know, how can I connect to that in times when I need to? Really, that is kind of the basis of doing any therapy work. I worked in a domestic violence shelter, and my job there was to create an art therapy program. So it was for the women and the children in the shelter, and the average stay was about 2 months. So in these 2 months, I did sessions with the women and the children, and the sessions were really focused on allowing the women a space to express themselves, focus on things like self-confidence, body awareness, boundaries, and also dealing with the trauma and the crisis that they were going through. Often women at the shelter, when they would meet me and I would kind of explain what I do and what we were going to do, they would kind of look at me and go, "Really? Like, you want me to draw something now?" And so a lot of them were really, really surprised and kind of taken aback with it, because, you know, it's difficult to face a blank piece of paper when you're so scared in other areas of your life. So the idea of space, really the blank piece of paper becomes the space, and the space that's only theirs to occupy. So for some, it was really, really frightening to kind of approach this space where they were allowed to do whatever they wanted and make whatever marks they wanted and fill it in any way they want. So for some of them, that was threatening at first, and it was interesting as they stayed at the shelter and as they gained more confidence in themselves, that how they began to fill the space differently. And so from what, you know, some women that came in the shelter, you know, it would begin with kind of light pencil marks or kind of so faint that you could barely even see any image there at all, to, you know, some women 2 months later feeling very empowered and having made tremendous steps towards getting back on their feet and finding work and finding a home and reestablishing their lives. Sometimes they could fill a whole huge sheet of paper and put tons of bright colors and paints, and that's the kind of progressions that you'd see with some women. Really, I think the most important part of art therapy is the story that the person tells through their artwork. Making art in art therapy is very different than doing art like in an art class, because the emphasis is a lot different and the focus is different. And so I think most people, when they do art, they remember how they did art in school, and the goal was to make something that looked pretty and make something that, you know, maybe looked like what the teacher made or follow certain criteria, whereas in art therapy, really, there are no rules. And it's really about looking inside oneself and just expressing what's inside, rather than, you know, what you're supposed to do or what looks good. Because the artwork is kept private, so it's really not necessarily about showing anybody. It's just about being in the moment and really expressing what's authentic to the self. With art therapy, you work with your hands, and so you work with art materials, and it's a very physical process. So, you know, you're working with your hands and with your body, and so that awakens the body as well. And that's also kind of a beginning of getting aware of your own space, your own physical body, and your ability to create something with that. Through your hands, you can create your world. That's really one of a very important part of art therapy, in terms of enabling people to imagine change and to imagine a different kind of life for themselves. And then to go ahead and create that through the art materials and then in their lives. But often, you know, an idea will begin with images, and in order for it to manifest, it has to begin there. Doing art therapy is also kind of like planting seeds. of things that, you know, you want to grow in your life. The AATQ website lists a number of therapists, art therapists, and there's a lot of community organizations that do art therapy for women.
So we have finished this edition of Dragon Root Radio today. Tune in every Tuesday morning from 8:30 to 9 on 90.3 FM or ckut.ca/listen. You can also pick and choose from our archives at center2110.org. We'd like to thank Midnight Kitchen for providing delicious foods for us while we were learning radio production at Dragon Root Radio Project. And that's the end of the Tuesday morning after for April 30th. Do stay tuned to CKUT 93.FM. We'll be right back.